France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Philippe Maurice, le dernier condamné. En octobre 1980, se tient le procès de ce jeune homme de 24 ans qui a tué un policier. La mort est inscrite dans son destin, car s'il n'est pas tué, il tuera encore, clame l'avocat général. Tuer l'homme pour éliminer le criminel. Voilà ce qui est alors demandé au juré, qui le 28 octobre 1980 le condamne à mort. C'est la première fois qu'on prononce cette sentence à Paris depuis 1963, c'est aussi la dernière fois. La grande histoire percute la petite, car si Maurice est bien condamné, il ne sera jamais exécuté, gracié in extremis par François Mitterrand après son élection et 4 mois avant l'abolition de la peine capitale. 23 ans de prison, tout de même. Mais Philippe Maurice va se libérer par les études. Ce gamin qui n'avait pas le bac ressort diplômé d'une thèse en histoire. Il est aujourd'hui un médiéviste renommé. Son parcours porte le signe de la violence autant que celui de la rédemption. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Picard, historien, professeur au lycée Edgar Quinet à Paris, spécialiste de l'histoire de la peine capitale. Il a publié en 2018 un ouvrage tiré de sa thèse, Le châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France de 1906 à 1981. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Juliette Pruteau, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Nous sommes en France. Et selon la très explicite formule prévue à l'article 12 du Code pénal, quand la justice condamne un criminel à la peine capitale, la tête du prisonnier doit être coupée, détachée du reste de son corps. À d'autres époques, on brûlait, on pendait. Dans d'autres pays, on électrocute ou on lapide. Chez nous, les hommes et femmes condamnés à mort, on les décapite. C'est comme ça. Cette pratique remonte à la Révolution française. En 1791, les députés décident que, dans un souci d'égalité, tous les citoyens doivent être exécutés de la même façon. La décapitation, autrefois réservée aux nobles, se démocratise. Et avec les années, le Code pénal français a continué à préciser l'organisation des exécutions.
Article 14. L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Article 16. Les corps des suppliciés seront délivrés à leur famille si elles le réclament, à la charge pour elles de les faire inhumer. Article 17. Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.
C'est peut-être à ça que pense Philippe Maurice en ce dimanche 10 mai 1981 dans sa cellule. Peut-être songe-t-il aux démarches administratives qui incomberont à sa mère après son exécution. Il a toujours été très proche d'elle. Le journal qu'il a commencé à écrire depuis son incarcération, c'est pour elle. Au tribunal, le jour où il a été condamné, elle s'est évanouie. Il le sait, il l'écrit. La peine de mort est encore plus terrible pour les proches que pour le condamné. En tout cas, il ne se fait pas d'illusions. Il sait que sa vie ne va pas se jouer à grand-chose. Comme celle de tout le monde, me direz-vous. Oui, mais dans le cas de Philippe Maurice, c'est un peu particulier. Parce que pour lui, c'est le résultat d'une élection présidentielle qui va décider de son sort. Mais oui, parce que quelques semaines auparavant, l'un des deux candidats qualifiés pour le second tour a dit ceci à la télé.
Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort.
Autrement dit, s'il est élu, François Mitterrand graciera les condamnés à mort. Cette annonce, beaucoup dans le camp des abolitionnistes l'espéraient. Mais politiquement, elle fait prendre un risque aux candidats socialistes. À l'époque, tous les sondages sont clairs. La très grande majorité de la population française est pour la peine capitale. Du côté de François Mitterrand, ça s'appelle le courage et la volonté politique. Alors, est-ce que cette prise de position pourrait coûter l'élection à François Mitterrand? Personne ne peut le dire. Mais pour Philippe Maurice, les mots du candidat résonnent comme un espoir, le dernier, car il a épuisé tous les recours. En mars, et pour la dernière fois de son histoire, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi et confirmé la sentence capitale. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et le seul moyen qu'il garde la sienne, c'est que Mitterrand soit élu président. Alors, au soir de ce dimanche 10 mai 81, seul dans sa cellule de la prison de Fresnes, c'est peu dire que le jeune Philippe Maurice attend les résultats. Quel enjeu vertigineux, une question de vie ou de mort, au sens premier de l'expression. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, ni en dehors, ni dans les prisons. La présidentielle, c'est donc à travers le poste de radio des gardiens qu'il parvient à la suivre. Alors, il leur demande d'augmenter un peu le son. Ils acceptent. Tous savent ce que représente cette élection pour lui. Si le candidat socialiste est favori, Philippe Maurice craint une inversion des résultats, on ne sait jamais avec les sondages. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Il sait que la guillotine est en train d'être préparée. Il sait que bientôt sa lame d'acier sera polie, limée, affûtée. Il sait que de la sueur sera dispersée à l'endroit où sa tête doit tomber. Pour amortir le bruit, pour éponger le sang. Il est probablement terrifié. Dans son journal, il écrit.
Chaque heure qui passe me rapproche de la mort. C'est tout ce que je sais. Je suis déjà hors du temps. Oui, le temps n'a plus réellement d'importance. J'aimerais vivre encore, oui. Mais cette attente... De toute manière, je suis déjà mort. Seul mon corps vit, refusant le sommeil. L'absence d'avenir est impossible à supporter. On se demande à quoi sert le présent. Je suis si jeune et si vieux.
À 20h, le visage du nouveau président s'affichera sur tous les écrans de télé du pays. Est-ce que Philippe Maurice sent son cœur battre plus fort quand il entend la radio dans le couloir annoncer que ce n'est plus qu'une question de secondes maintenant? Est-ce que son souffle s'accélère alors que le compte à rebours est lancé avant l'annonce du nom du futur président? 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Nous répétons donc, estimation C2ION et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République avec, selon notre estimation, 51,7%.
Jacques Merlino, qui se trouve à la rue de Solferino.
Le cerveau du prisonnier est en ébullition. Il ne parvient plus à réfléchir. Tout se mélange. La guillotine, la lame qu'on aiguise, la sueur qu'on disperse, les larmes de sa mère, de son frère. Il va vivre. Il sera gracié. Il va vivre. Mais pour faire quoi? Il n'en sait rien encore. Mais une chose est sûre, la deuxième vie de Philippe Maurice vient de commencer. Sa première naissance, celle qui figure sur sa carte d'identité, remonte au 15 juin 1956, à Paris. Avec son frère de 3 ans, son aîné Jean-Jacques, ils grandissent dans un milieu modeste, en banlieue parisienne. Leur mère, Jacqueline, est aide-comptable. Leur père, gardien de la paix. Philippe Maurice sort de la vie de la famille dès 1962, date du divorce de ses parents, il a 6 ans. Avec son frère, ce sont de bons gamins. Philippe a une réputation de rêveur. À l'école, ce qu'il aime, c'est les histoires. Et puis l'histoire, avec un grand H. Il regarde tous les péplums et plonge dans le magazine Historia quand il le peut. Jacqueline, elle, se démène toute seule pour les faire marcher droit, ses gosses. À l'adolescence, si Philippe est écarté de la filière générale à l'école, sa mère tient à ce qu'il ait un diplôme. Alors elle le pousse. Il obtient un CAP d'aide comptable, comme elle. Il enchaîne avec son service militaire. Jean-Jacques, son frère, lui emprunte une voie plus hasardeuse d'un point de vue légal. embarqué dans des petites combines, il est arrêté pour vol de voiture. Son incarcération marque l'entrée de Philippe Maurice dans la délinquance. Il témoigne au micro d'Anne Brunel pour l'émission À Voix Nue sur France Culture.
J'ai découvert la prison à travers mon frère. Et moi, mon frère en prison, c'était inadmissible, c'était injuste. Et à l'époque, j'étais vraiment 100% légaliste. Je n'avais pas envie d'orienter ma vie hors la loi. Au contraire, j'avais envie de me marier avec ma petite fiancée. Donc mon frère est arrivé en prison, il s'est fait rouer de coups. Bon, il y a eu toutes sortes de choses. Dès le départ, aussi bien pour lui que pour moi, il y avait quelque chose d'évident, c'est qu'il ne devait pas rester en prison. Or, la loi l'obligeait à rester en prison. Donc, il fallait qu'il s'en aille. À partir de là, il est évident qu'on n'aide pas quelqu'un à s'évader de prison en allant travailler comme aide-comptable. Pour moi, bon, il allait s'évader et puis moi, je continuerai ma vie.
Mais ça ne marche pas comme ça. Sans vraiment le réaliser, Philippe Maurice franchit une frontière, une ligne fine, aussi réelle qu'invisible, comme une réalité parallèle, un chemin dont on revient difficilement. L'illégalité est entrée dans sa vie. Il lui faudra plus de 25 ans pour en sortir. Dans la foulée de l'évasion de son frère, pour laquelle il est recherché, il accepte en effet d'aider Serge Atuil, un copain de CAP, à écouler les faux billets dans l'Aveyron. C'est le début des petites magouilles. Vol de voitures, recel, escroquerie, chèques volés. Il dira « Je n'ai jamais voulu être un voyou, mais comme tant d'autres, l'appât du gain prend le dessus. En particulier chez ceux qui sont issus de milieux modestes. La pauvreté crée la frustration. La frustration crée l'envie ou la colère. La petite délinquance lui permet d'accéder à des biens matériels qui lui sont d'ordinaire hors de portée. Et sûrement qu'il y prend goût. Mais il n'a certainement pas conscience du prix qu'il lui faudra payer en échange. Alors qu'il commence à être recherché pour des affaires de fausse monnaie, il force plusieurs barrages policiers dans l'Aveyron. Il finit par se faire arrêter à Saint-Genis-d'Olt, dans le nord du département. Nous sommes en mai 77, Philippe Maurice a 21 ans. Écroué à la maison d'arrêt de Rodez, il est jugé l'année suivante et prend 5 ans. Une peine sévère, compte tenu à la fois de son âge, 21 ans, et du fait que les délits n'ont pas engendré de blessés, et qu'il s'agit d'une première condamnation. La justice est moins laxiste qu'on ne le croit, ou ce qu'en disent les tenants de la répression à tout va, avec ce concept brutal qu'est la tolérance zéro. Mais l'époque est déjà à la fermeté. N'est-ce pas le ministre de la Justice, Alain Perfitte, qui déclare ceci quelques semaines avant la condamnation de Maurice à propos de l'emprisonnement des primo-délinquants ?
L'expérience montre que le choc de la prison peut être salutaire pour un adolescent qui s'est laissé entraîner à un délit et n'est même pas conscient de la gravité de ce qu'il a fait. Le choc psychologique lui ouvre les yeux, lui montre la gravité de son acte et l'incite à ne pas recommencer.
La théorie du ministre ne se vérifie pas dans le cas de Philippe Maurice. Au-delà de cette condamnation qu'il vit comme une injustice et des brimades et humiliations qu'il subit en prison, le jeune homme se durcit au contact de délinquants plus chevronnés. En avril 79, une permission d'une journée lui est accordée. Il sort au petit matin de la maison d'arrêt de Rodez. Il n'y reviendra pas. Philippe Maurice s'est évadé.
Inhumain, rétréci, sans aucun lendemain. Sa bite en s'est glissée sous une grille à terre et dans un pololo pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Et n'a même plus son ombre infidèle compagne. Elle s'en est allée, refusant d'être esclave de ce vivant borné. Il tourne, il tournera toujours, jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever.
septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais peut-être pas personne. Fleurit et rougit un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. J'aime vous voir d'une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, oh voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné. En rendant la justice au nom des libertés, liberté! Et Fleurit et Rougit, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurit et Rougit, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barreaux fleuris, inhumain, rétréci, sans aucun lendemain, s'habitant, séduisé sous une grille à terre, et dans un bol de l'eau pour qu'il se désaltère, il est seul, sans soleil.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Philippe Maurice, le dernier condamné à mort.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Au printemps 79, Philippe Maurice, 23 ans, est donc en cavale. Il n'est pas seul. Serge Atuil, le compagnon de toujours, compagnon dans la délinquance, s'est lui aussi échappé. Et le duo découvre la clandestinité. Avec elle, il s'éloigne plus encore de la légalité. Et les choses s'obscurcissent. Ils enchaînent les vols, de voitures notamment, qu'ils commettent désormais avec une arme. Ils bougent de planque en planque au gré des rencontres qui les amènent en région parisienne. Nous sommes alors en décembre 79. Dans la nuit du jeudi 6, Maurice et Atuil sont en plein repérage, rive gauche à Paris, dans une Peugeot 104 qu'ils ont volée peu de temps auparavant. Ils roulent très lentement dans les rues bourgeoises de la capitale, cherchant la bonne occasion. Quand, sans s'en rendre compte, ils passent devant une voiture de police banalisée. Ils sont immédiatement repérés et pris en chasse, sirène et gyrophare. La Peugeot 104 s'engouffre rue Monge, dans le 5e arrondissement. Mais Maurice et son acolyte ne connaissent pas le quartier. Et ils se retrouvent vite coincés dans une impasse, c'est le cas de le dire. Ils abandonnent leur voiture, mais se retrouvent cernés par les policiers. Alors ils n'ont que quelques secondes pour faire un choix. Ce sera le mauvais choix. Tout va très vite. Serge Atuil sort un revolver 8 mm de sa poche et tire à bout portant sur le brigadier Roel, 33 ans, et le tue au moment où sa victime le ceinturait. Dans le même temps, ou presque, Atuil, 22 ans, est touché par balle par l'arme d'un second policier. C'est à ce moment-là que Philippe Maurice tire avec un pistolet semi-automatique 9 mm sur un troisième agent qui court dans sa direction. Le policier s'appelle Gérard Croux. Il meurt quelques instants plus tard. En quelques secondes, pas moins de 25 coups de feu sont tirés. Philippe Maurice est désormais un meurtrier, qui plus est, d'un policier.
Gérard Mérigot, des hommes, trois hommes, sont morts cette nuit à Paris.
Oui, trois morts, deux blessés effectivement à Paris la nuit dernière. Une fusillade a éclaté rue Monge dans le 5e arrondissement entre des gardiens de la paix qui patrouillaient et des malfaiteurs au volant d'une voiture volée. Après une poursuite dans les rues de la capitale, la voiture des policiers a réussi à coincer dans une impasse le véhicule qu'ils avaient pris en chasse. Les gangsters, pour protéger leur fuite, ont immédiatement ouvert le feu. Deux policiers ont été tués sur le coup, un troisième grièvement blessé. Et puis dans la fusillade, un des malfaiteurs a été tué. Le deuxième, bien que blessé, a pu prendre la fuite malgré un important quadrillage mis en place immédiatement.
Qu'est-ce que ça lui fait à Philippe Maurice d'avoir tué ? Comment est-ce qu'on se réveille le lendemain du premier meurtre qu'on a commis? Est-ce que ça se voit sur son visage, sur ses mains, qu'il a ôté la vie? Est-ce que ça vous change de façon transcendantale? Si Philippe Maurice est parvenu à s'échapper après le chaos de la fusillade, il est rapidement retrouvé par la police. Un répertoire avec les noms de plusieurs contacts est retrouvé par les enquêteurs dans la Peugeot 104 des criminels. Parmi ces noms, celui de l'ami chez qui le fugitif se cache. Il est donc arrêté dès le lendemain, nous sommes le 8 décembre. Très vite, il reconnaît les faits. Et bien sûr, la fusillade et l'annonce de la mort de deux policiers fait réagir.
Oui, les petits truands, les loubards, ont la gâchette facile. Deux convoyeurs de fonds abattus hier, des policiers tués cette nuit par des gangsters, la gérante d'une grande surface également tuée ce matin par un petit truand. Le monde de la pègre n'est plus ce qu'il était. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, a convoqué cet après-midi, place Beauvau, les principaux responsables de la police. Christian Bonnet, qui était venu ce matin s'incliner devant la dépouille des deux policiers, s'est dit partagé entre l'émotion et l'indignation. « J'ai le cœur serré », a dit le ministre, « mais je serre aussi les poings ».
Le président de la République lui-même, Valéry Giscard d'Estaing, exprime la profonde émotion que lui inspire le meurtre des deux policiers lâchement abattus vendredi dernier. Je reprends ses mots. Il demande d'ailleurs publiquement au garde des Sceaux de veiller à ce que la procédure judiciaire soit conduite avec le maximum de diligence pour aboutir le plus rapidement possible à un jugement. Toujours ses mots. Eh bien, ce sera chose faite, puisque l'instruction est bouclée en moins de 3 mois. En même temps, non seulement Philippe Maurice a avoué, mais c'est aussi un permissionnaire en cavale qui avait l'arme du crime avec lui quand il a été arrêté, ça fait beaucoup. Ils sont donc nombreux à exiger sa tête. Des membres de l'association Légitime Défense, particulièrement favorables à la peine de mort, s'insurgent dans les médias. Si on ne le tue pas, en sortant, il recommencera, et pendant son temps de prison, il sera nourri et logé aux frais du contribuable. Vous trouvez ça logique, vous, que le peuple français entretienne pendant 20 ans un assassin? On connaît la musique. François Mitterrand la fera taire, en septembre 81. Le procès de Philippe Maurice se tient moins d'un an plus tard. Le verdict est commenté sur France Télévisions.
Bonsoir. Les jurés de la Cour d'assises de Paris viennent de condamner à mort Philippe Maurice, accusé d'avoir tué un policier l'année dernière. Le verdict a été annoncé il y a un peu plus d'une demi-heure.
La peine de mort votée aux assises de Paris, cela ne s'était pas vu depuis 16 ans. Maître Pelletier n'a pas réussi à sauver la tête de son client, Philippe Maurice. Et pourtant, sa plaidoirie brillante d'une heure et demie a plongé chacun des jurés face à ses responsabilités. Vous n'êtes pas des bourreaux, lui aura-t-il dit. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue et pourtant, Maître Pelletier a contesté la préméditation et la complicité de Maurice dans cette affaire. C'est en fuyant qu'il a assassiné le policier Crooks. Maître Pelletier, en rappelant les conclusions du psychiatre, a dit « On ne coupe pas la tête à quelqu'un dont l'expert vous dit la possibilité d'une réadaptation à long terme ». Les jurés n'ont rien entendu, le verdict est là. Il y a ce soir un troisième condamné à mort dans les prisons françaises.
Le tribunal et les jurés ont donc suivi à la lettre les recommandations de l'avocat général. La mort est inscrite dans le destin de Philippe Maurice, car s'il n'est pas tué, il tuera encore, souvenez-vous de ces mots. Philippe, 24 ans, aide-comptable, fils de Jacqueline Maurice, frère de Jean-Jacques, meurtrier de Gérard Crou, sera donc décapité. La réaction du ministre de la Justice à l'annonce du verdict traduit bien l'impact du contexte, du climat de violence dans le déroulé du procès. Contexte qui a certainement coûté les circonstances atténuantes à Philippe Maurice, et donc sa tête. Ainsi, Alain Perfitte estime que le sentiment d'insécurité qui atteint les Français est parfaitement perçu par les jurés et comporte des leçons que nous devons méditer. Philippe Maurice entend cette condamnation. Il la reconnaît. Il ne fait pas d'esclandre au tribunal, ne crie pas au scandale. Pour autant, il ne compte pas s'y résoudre. Il le dira plus tard, un prisonnier a deux droits, celui de s'évader et celui de se révolter contre les injustices qu'il subit. Ces mots sont fondamentaux pour comprendre le personnage. Alors sans attendre les résultats de son pourvoi en cassation, il agit. Nous sommes le 25 février 1981, Écho sur France Inter.
Dans les tentatives d'évasion, les coupables se suivent et se ressemblent. Qui était complice de Jacques Mesrine lorsqu'il s'est évadé du palais de justice? Son avocate, Christiane Giletti, qui depuis a été inculpée. Même scénario à peu près pour Philippe Maurice, le condamné à mort de la prison de Fresnes, qui a blessé grièvement un de ses gardiens hier après-midi. Il avait un revolver de calibre 11.43 dans sa cellule, et c'est probablement son avocate, maître Brigitte Hermelin, qui le lui avait apporté. Elle est gardée à vue au Quai des Orfèvres, et l'a à moitié avouée en reconnaissant qu'elle avait donné à Philippe Maurice le matin même un colis cadeau, ça ne s'invente pas. À cause d'elle, un gardien a failli mourir. On comprend ce soir la colère froide d'Hubert Bonaldi, le patron du syndicat Force ouvrière des prisons, interrogé par Antoine Sanchez. Hubert Bonaldi demande que tout le monde, sans exception, soit fouillé à l'entrée des prisons.
Trois semaines plus tard, son pourvoi en cassation est rejeté. Philippe Maurice va donc être exécuté. Résigné, il inscrit dans son journal « De toute manière, je suis déjà mort ». À l'image d'un Dostoïevski qui écrivait « Ce n'est pas la mort en elle-même qui est terrible, mais le fait de savoir qu'elle va venir et de l'attendre. C'est cela le pire des tourments. » Mais sur un coup du sort, comme l'auteur russe, lui aussi condamné à la peine capitale, Philippe Maurice va échapper à sa propre mort. Car le 10 mai 1981, c'est donc François Mitterrand qui est élu et qui tient parole. Philippe Maurice sera gracié le 25 mai, 4 jours après l'investiture du nouveau président. Sa peine est commuée en réclusion à perpétuité. Et c'est l'avocat Robert Badinter, futur ministre de la Justice, qui est chargé d'annoncer aux condamnés la nouvelle dès le 11 mai.
Je suis donc parti à Fresnes, je suis arrivé à prison, et puis je m'entretins longuement avec Philippe Maurice. Je lui dis ce que je voulais lui dire depuis si longtemps. Je lui ai dit qu'il devait en effet la vie à l'élection de Mitterrand, à mon sens, que dès lors, il incarnerait aux yeux du public l'abolition. Que s'il retombait dans les errements passés, alors là, ce serait un préjudice terrible qu'il causerait à la cause de l'abolition. Et puis je lui expliquais ma conviction profonde, c'est-à-dire qu'il était redevenu par l'abolition. Il était redevenu maître de sa vie. Ce propos pouvait paraître dérisoire dans une cellule de condamnés à mort, mais je lui représentais que cette maîtrise de sa vie, il fallait la comprendre comme la possibilité pour lui de faire un choix de vie jusque dans la prison.
C'est donc un nouveau combat que doit livrer Philippe Maurice. La même bataille que doivent mener toutes celles et tous ceux qu'on enferme. Comment exister en prison? Et comment y survivre? Vous n'avez aucun repère. Vous ne prenez aucune décision. À maintes égards, vous n'existez plus. Simple numéro, vous êtes complètement seul dans votre esprit. Et c'est plus facile que ce qu'on imagine de se perdre entre ces quatre murs, surtout si, comme Philippe Maurice, vous êtes dans un quartier de haute sécurité. Si on vous envoie souvent à l'isolement. Si certains matons vous ont en grippe parce que vous avez tué un flic. Alors le jeune Maurice s'adapte et prend un virage radical. Il fait ce que personne n'attendait de lui. Et il l'explique au journaliste Jean-Michel Dumais dans un article pour Le Monde.
En prison, il n'y a plus ni passé, ni présent, ni avenir. Le temps est comme une spirale au cycle continuellement sans fin. Une spirale gouffre dans laquelle on s'enfonce jusqu'à disparaître. J'ai étudié. D'abord pour ne pas devenir fou. Puis par réaction contre le personnel de l'administration, à la base qui voyait d'un mauvais œil que je suive des cours en détention. Et puis j'ai aussi beaucoup, beaucoup écrit.
Si l'écriture le maintient orienté vers l'extérieur, elle lui permet aussi de réfléchir. Il fait travailler son cerveau, comme un muscle, qu'il sollicite le plus possible. Philippe Maurice se plonge dans les études et c'est dans l'histoire, avec un grand H, qu'il s'évade. Il décroche d'abord le bac, en candidat libre. Il s'inscrit ensuite à la faculté d'histoire de Tours et obtient sa licence. Nous sommes en 1987, il a 31 ans. C'est peu dire que ces conditions d'incarcération ne facilitent pas son apprentissage. Bon, c'est une prison, me direz-vous, pas une université, certes. Mais il semble payer cher sa lutte pour dénoncer et améliorer les conditions de détention. On le place régulièrement en isolement. Il y reste parfois des semaines entières. L'université de Tours se mobilise ainsi à plusieurs reprises pour dénoncer le traitement dont il fait l'objet. Un comité de soutien est même créé au sein de la faculté pour aider l'étudiant. Maurice a poursuivre son parcours académique. Avec succès puisqu'en 89, il obtient sa maîtrise d'histoire du Moyen-Âge. Avec mention, s'il vous plaît. 6 ans plus tard, en 95, il sort de prison pour quelques heures, sans menottes. Philippe Maurice a rendez-vous avec son histoire, au JT de 20h sur France 2.
Philippe Maurice avait 24 ans quand il a entendu prononcer sa condamnation à mort dans cette salle d'audience du palais de justice de Paris. 15 ans plus tard, lundi dernier, à 39 ans, il est sorti de prison pour la première fois pour passer devant un tout autre jury. Cette fois, il n'est plus en survêtement mais en costume cravate et les juges sont des universitaires de la fac de Tours. Entre-temps, Philippe Maurice a été gracié par François Mitterrand. Il a commencé des études d'histoire et rédigé une thèse d'histoire médiévale de 1200 pages sous la direction de Christiane Deluz. Un travail de 5 ans.
Sa très grande intelligence lui a permis de très bien réussir tout de suite dans ses études et sa grande volonté de travail aussi. Et donc, il s'est intéressé de plus en plus, il s'est investi de plus en plus dans ses études et c'est devenu pour lui une sorte de raison d'être au fond.
L'homme qui a volé des voitures, tué un policier et tiré sur un gardien au cours d'une tentative d'évasion est devenu aussi docteur en histoire, le grade le plus haut de l'université française.
Le 8 mars 2000, il sort sous le régime de la libération conditionnelle. Il a 44 ans, il a passé un peu plus de la moitié de sa vie en détention. Depuis, il a une fille et enseigne histoire médiévale. Pour autant, Philippe Maurice n'est pas un héros, il a tué. Mais sa trajectoire de vie n'en est pas moins hors du commun. Et surtout, elle est fondamentale pour notre histoire collective et démocratique. C'est Robert Badinter qui signa la préface de la thèse de l'ancien condamné à mort. Et ces mots résument mieux que tout autre la signification d'un tel parcours. La thèse qui est aujourd'hui présentée au public est la preuve qu'il a tenu parole envers lui-même et surtout envers la société à l'égard de laquelle sa dette était considérable. Cette thèse, réalisée en prison par un ex-condamné à mort, au prix d'efforts immenses au regard de la réalité carcérale, témoigne mieux que tous les discours que l'on ne doit jamais désespérer des hommes. L'épreuve de Philippe Maurice n'est pas achevée, mais l'exemple qu'il donne est assurément l'un des plus précieux qui soit contre l'inhumaine et inutile peine de mort.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Philippe Maurice, le dernier condamné à mort en France, dont nous parlons avec notre invité Nicolas Picard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien chargé de cours au lycée, on l'a dit, le lycée Edgar Quinet à Paris, spécialiste de l'histoire de... chargé de cours, c'est-à-dire prof, hein, tout simplement. Spécialiste de l'histoire de la peine capitale, vous avez publié en 2018 un ouvrage tiré de votre thèse, hein, Le châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France de 1906 à 1981. Alors cette condamnation de Maurice en octobre 80, décision confirmée par la Cour de cassation en mars 81, on l'a évoqué dans le récit, mais je pense qu'il faut y revenir sur le contexte politique. Rarement le contexte politique n'aura été aussi lourd concernant les affaires de justice qu'à cette époque-là, justement parce que le débat sur la peine de mort est vraiment ouvert, là, pour le coup, complètement. Revenons sur le contexte politique.
Alors, en effet, on est dans le contexte de la campagne, enfin, du début de la campagne électorale de 1981. Alors, les sujets de justice et de peine de mort sont présents, mais il faut bien voir quand même que ça reste des sujets assez mineurs, hein. Les grands thèmes de la campagne de 1981, ce sont surtout les questions économiques et sociales.
Le chômage,
l'inflation, les faillites de grandes entreprises, la politique étrangère vis-à-vis du RSS. Quand on évoque la justice à la fin du septennat Giscard, c'est surtout les affaires politiques, hein, l'affaire Boulin, l'affaire Debreuil, l'affaire Diamant de Bokassa. Et l'insécurité, c'est aussi beaucoup les affaires de terrorisme. Il y a eu l'attentat de la rue Copernic, l'attentat de la Bourse, les attentats nationalistes corses, basques, bretons même. Et donc c'est surtout ça. Et donc il y a effectivement le thème du crime, l'insécurité qui apparaît, mais qui reste néanmoins, il faut... raison. Enfin, ça reste mineur par rapport à d'autres thèmes, néanmoins.
Alors, François Mitterrand abolit la peine de mort, il tient sa promesse. On peut s'étonner aussi que, alors, pas faire d'histoire-fiction, mais que Giscard d'Estaing n'ait pas pris cette décision. Voilà un président qui probablement fait partie des trois présidents qui ont le plus réformé la France. C'est un bourgeois éclairé, hein, c'est un humaniste, Giscard. Il aurait pu prendre cette décision. Il y a quelque chose d'un peu incompréhensible.
Il faudrait lui demander, mais bon, trop tard maintenant, c'est l'histoire qui s'en occupe.
Et alors,
on lui a demandé déjà.
La réponse, c'est comme, en fait, c'est comme pour Georges Pompidou, qui avait un peu le même profil au début. Hein, en 1969, quand Georges Pompidou accède à la présidence de la République, il gracie tous les condamnés à mort qui se trouvent alors dans les prisons françaises. Et beaucoup pensent que Georges Pompidou va abolir. Et en fait, voilà, Georges Pompidou n'était pas au fond d'abolitionniste. Et Magiscard, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, voilà, il veut apparaître comme étant éclairé, mais il est resté jusqu'au bout, et même après, hein, jusque dans les années 2000, quand on faisait des interviews avec lui, il est resté partisan de l'exemplarité de la peine de mort. Donc, c'est un peu contradictoire,
oui,
mais ce n'est pas complètement surprenant.
Alors, en février 81, le ministre de la Justice de l'époque, c'est Alain Perfit, hein, fait adopter une loi intitulée « Sécurité et liberté ». C'est presque un oxymore, tant qu'on sait que les politiques de sécurité sont mécaniquement liberticides, mais enfin c'est comme ça. Sécurité et liberté, que dit cette loi ?
Alors c'est une loi qui est principalement, qui vise à renforcer l'aspect répressif. Alors c'est l'aspect liberté est justifié quand même par le fait qu'on va accorder un peu plus de droits aux victimes, un peu plus de droits aux justiciables, notamment pour la garde à vue, pour les comparutions immédiates. Donc c'est comme ça qu'on justifie le terme liberté. Mais globalement, l'idée c'est quand même de faciliter, d'une part, de faciliter le travail policier en leur permettant justement de faire plus de contrôle d'identité, d'intervenir plus facilement dans les flagrants délits, également de pouvoir mieux infiltrer les réseaux criminels. Et l'autre aspect, c'est l'aspect judiciaire, c'est de renforcer certaines peines, notamment pour certains crimes en vogue à cette époque, à savoir les braquages, les enlèvements, et également d'enlever ce qu'on pouvait voir comme un peu des formes d'indulgence, c'est-à-dire limiter le sursis, limiter les permissions, justement, et limiter l'octroi des circonstances atténuantes.
France Inter. Affaires sensibles.
Nicolas Picard, question étrange, mais c'est le moment de la poser. Que sait-on des conséquences anatomiques d'un couperet de guillotine qui tombe apparemment ? Je pense que le docteur Guillotin avait inventé ça pour que ce soit une mise à mort la plus, on va mettre de gros guillemets, la plus propre possible, la moins barbare. Qu'est-ce qu'on sait de ça ?
Alors en fait, c'est pas. Alors Guillotin a proposé, mais c'est un chirurgien, c'est Antoine Louis qui a mis au point la guillotine. Et donc l'idée, effectivement, était d'entraîner une mort instantanée et donc indolore.
Est-ce que c'est le cas ?
Et alors ça a fait débat pendant tout le 19e siècle. Hein, c'est ce qu'on appelait la querelle des têtes tranchées. Avec des expériences pour essayer de demander leur avis aux têtes en essayant de les réanimer avec de l'électricité, donc le galvanisme, des transfusions sanguines aussi, d'essayer de les transfuser. Bon, ça n'a jamais marché. Et ce qui a fini par s'imposer comme théorie, c'est le fait que la section de la moelle épinière éteint quelque part le cerveau. Ça fonctionne comme une sorte d'interrupteur. Donc il y a cette idée qui s'impose à la fin du 19e siècle. Depuis la fin du 19e siècle, il n'y a plus vraiment de débat sur l'instantanéité de la mort par la guillotine. Néanmoins, il y a quand même le côté barbare du sang versé qui va rester et qui fait que jusque dans les années 70, on se pose encore la question de savoir par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer la guillotine. On pense déjà à l'injection létale aussi en France.
Ce qui est barbare, c'est d'annoncer la mort de quelqu'un. C'est ça la vraie barbarie aussi. Enfin, c'est l'acte également, mais quand on vous dit que vous êtes condamné à mort, vous n'êtes pas condamné le lendemain, ça c'est comme un supplice terrible et inhumain, quoi. C'est complètement fou.
Alors c'est très particulier en France parce qu'en plus le condamné ne sait pas s'il va être exécuté jusqu'au matin même de son exécution. Et donc, il va rester pendant des mois même, hein, pour certains même des années, dans l'incertitude. En gros, le premier temps, tant que le pouvoir en cassation n'est pas passé, il est assez tranquille. Après que le pouvoir en cassation soit passé, qu'il attend la grâce, c'est là où l'inquiétude s'installe vraiment et où ça tourne à la torture psychologique. Les présidents de la République en sont conscients. Hein. Il y a des notes en disant il faudrait qu'on active cette décision parce que c'est insupportable. Mais malgré ça, ça prend du temps.
Alors pour revenir à la condamnation de Philippe Maurice, pensez-vous que ce verdict était particulièrement sévère eu égard à son parcours? Alors, absence de circonstances atténuantes également, c'est vrai qu'il y a meurtre d'un policier, et ça coûte très cher.
Alors, de toute manière, à la fin des années 70, début des années 80, la peine de mort est tellement rare que c'est forcément une peine particulièrement sévère. Hein, on l'a rappelé, ça faisait 17 ans qu'à Paris, il n'y avait pas eu de condamnation à mort. Ça faisait presque 20 ans qu'il n'y avait pas eu de condamnation pour meurtre de policiers, alors qu'il y a eu quand même plusieurs procès pour meurtre de policiers pendant tout cet intervalle. Et donc, effectivement, c'est une peine qui est extrêmement sévère, d'autant qu'il aurait pu faire valoir certaines circonstances atténuantes. Il était jeune, il a agi sous le coup de la panique. Hein, voilà, c'est pas quelque chose qui avait été prémédité longtemps à l'avance, même si on a retenu la préméditation. Donc il y avait des, et l'expert psychiatre aussi a souligné qu'il était réinsérable, qu'il était simplement immature. Bon, il y avait des éléments qui auraient pu jouer en sa faveur. Alors il se trouve que le meurtre de policier, c'est un crime qui est passible en soi de la peine de mort. C'est-à-dire que normalement, il y a deux catégories de victimes pour lesquelles on n'a pas besoin de prouver la préméditation. Ce sont les forces de l'ordre.
Et les enfants. Hein.
Et non, les ascendants.
Les ascendants.
Parents, les parents. Les parents et grands-parents. Les enfants, il faut prouver qu'il y a eu préméditation. Voilà. Mmh. Donc c'était les deux catégories pour lesquelles l'homicide volontaire simple suffisait. Alors, sauf que lorsque... Alors, la loi sécurité-liberté dont on a parlé est globalement répressive, sauf que, sur un point, elle est plus souple, c'est-à-dire qu'elle va supprimer cela. C'est-à-dire que le meurtre de policier n'est plus passible à soi seul de la peine de mort. Et donc, les avocats de Philippe Maurice pensent que la Cour de cassation va appliquer rétroactivement cette loi à Philippe Maurice. Voilà, ça, quand la loi est plus douce, on peut le faire. Mmh. Mais le président Giresse, le président des Assises, avait eu l'habileté, je ne sais pas comment formuler ça, de me poser la question sur la préméditation, justement. Et les jurés avaient répondu oui. Et donc, meurtre avec préméditation, la Cour de cassation n'a pas pu casser. Et donc, Philippe Maurice, le dossier de Philippe Maurice a atterri sur le bureau du président Giscard.
Il cochait toutes les cases.
Et voilà.
Alors finalement, au bout du compte, quel est le dernier prisonnier exécuté en France?
C'est Amida Djandoubi, à Marseille, en 1977, pour une sombre affaire de ce qu'on appellerait aujourd'hui un féminicide. Hein. Donc en fait, il a tué sa maîtresse, alors avec des tortures, bon, c'est assez sordide, maîtresse qu'il prostituait, voilà. Donc, et donc c'est le dernier condamné à mort exécuté en France en 1977.
Et pourquoi n'a-t-il pas obtenu de grâce?
Je pense principalement parce que les souffrances qu'il a fait endurer à cette jeune fille ont dû révolter le président Giscard. Là encore, on retrouve sur le fait que ça reste des décisions qui sont émotionnelles, hein, principalement. Parce que pour Amida Djandoubi aussi, il y avait des circonstances atténuantes. En fait, il a basculé dans le crime lorsqu'il a perdu sa jambe dans un accident de travail. Jusque-là, c'était un honnête travailleur, il est devenu handicapé, il a basculé dans la pauvreté, il a basculé dans le proxénétisme, et c'est ça qui l'a entraîné vers le crime.
En abolissant la peine de mort, on abolit un droit qui était quand même terrible à assumer pour les présidents de la République, le droit de grâce. C'est énorme, quoi. Décider de la vie ou de la mort d'une personne.
Oui, et alors, il y avait quand même tout un appareil administratif pour guider la main du président pour alléger, on va dire, sa responsabilité, c'est-à-dire qu'après une condamnation à mort, il y avait tout un ensemble de rapports qui remontaient à la chancellerie, des rapports de l'avocat général, du président des assises, du procureur général. Il y avait un premier conseil à la chancellerie qui donnait un avis, il y avait ensuite un autre conseil au conseil supérieur de la magistrature pour donner un nouvel avis, et c'est avec tous ces avis que le président de la République pouvait se décider. Généralement, il suivait ce que j'appelais une pente d'indulgence, c'est-à-dire qu'il avait toujours à être plus indulgent que ce qu'on lui recommandait. Et donc, lorsque tous les avis étaient en faveur de l'exécution, il pouvait quelque part soulager sa conscience en se disant « vraiment, tout le monde penche dans cette direction ».
Alors, à ce moment-là, en Europe, beaucoup de pays, je crois, ont déjà aboli la peine de mort.
Alors, en Europe occidentale,
avant 81.
Et en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est surtout que c'est des abolitions de facto. Y a beaucoup de pays qui ont aboli, en fait, après la France. Les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, l'Irlande ont aboli, en fait, après la France. Un mois après la condamnation à mort de Philippe Maurice, il y a par exemple un Irlandais, Peter Pringle, qui est condamné à mort exactement pour le même motif. Il a tué deux policiers. Sauf qu'en Irlande, En gros, il n'y a pas eu d'exécution depuis 1954. Donc, la peine de mort était toujours prononcée, mais les peines de mort étaient systématiquement commuées. Donc, ce qui faisait la particularité de la France, c'était surtout que c'était un pays où la peine de mort risquait effectivement d'être appliquée, risquait effectivement d'être exécutée.
Mais pourquoi cette exception française, grand pays européen, nos partenaires européens d'aujourd'hui avaient aboli en plus le pays des droits de l'homme, dit-on officiellement. Il y a un petit décalage là.
Alors, il y a eu pendant longtemps le fait qu'il y avait des guerres, des raisons politiques, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les guerres de décolonisation avec la guerre d'Algérie, qui faisait que c'était compliqué pour le pouvoir politique d'abolir. Et par ailleurs, on a un peu raté le coche des années 60. C'est-à-dire, par exemple, la Grande-Bretagne, elle, va abolir pendant les années 60. En 1960, dans les années 60, l'opinion publique française est majoritairement en faveur de l'abolition. Le président Pompidou ne le fait pas, et en fait, l'opinion se retourne dans les années 70. Donc,
Et c'est pour ça qu'on arrive à 1981.
C'est un
processus. D'accord, merci infiniment Nicolas Picard. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Philippe Maurice, le dernier condamné à mort. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmaz.